bénissons, Seigneur, parce que tu nous donnes toutes choses et maintenant tu veux aussi nous donner ta parole. Nous te prions qu'elle fasse son œuvre en nous. Nous te prions que nos cœurs soient totalement disponibles pour la recevoir et l'entendre. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous transforme à l'écoute de cette parole. Que peut-être ce matin, nous ayons l'occasion de réaliser quelque chose que nous n'avions pas encore réalisé. Et si nous avons déjà tout, Seigneur, que ce soit l'occasion de nous remettre en route, de nous émerveiller à nouveau de ton œuvre pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous propose la lecture du chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Alors il faut un petit peu s'accrocher hein, parce que l'Épître aux Romains c'est un peu un traité de théologie, mais on va essayer d'aborder ce chapitre et ce texte avec toute la beauté qu'il contient. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient plus compte de son péché. Ne compte pas son péché, pardon. J'ai tellement l'habitude de le lire autrement que je l'ai transformé. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons, pour Abraham, la foi fut comptée comme justice. Comment donc était-il lorsqu'elle lui fut comptée? Était-il circoncis ou non? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi, quand il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Et il est aussi le père des circoncis, qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père à tous devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit « cela lui fut compté ». C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Et j'ajoute le verset 1 du chapitre 5, ce n'était pas prévu. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà pour cette lecture. L'Épître aux Romains, je le disais en introduction, est sans doute la lettre de Paul qui ressemble le plus à un traité de théologie. Une introduction pour essayer d'y voir un peu plus clair. Cette épître peut être divisée en deux grandes sections, une partie doctrinale et une partie pratique. La partie doctrinale, dans laquelle se trouve notre texte, traite du plan du salut. Paul y développe deux doctrines principales. La justification par la foi, c'est ce qu'on a entre autres ici, et la sanctification par le moyen du Saint-Esprit. Après avoir prouvé l'état de péché de tout être humain, notamment dans le chapitre 3, on trouve des versets comme « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu » ou encore « Il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Donc après avoir prouvé cet état de péché et donc la nécessité du salut, l'apôtre s'emploie à expliquer que la méthode choisie par Dieu est celle de la justification par la foi. Et dans notre passage, qui est peut-être celui qu'on lit le moins souvent quand il parle de cette doctrine, il montre l'illustration de ça, en fait, dans la vie d'Abraham, mais aussi de David, ouvrant par là sa compréhension dans notre propre vie et les conséquences de cette application. Le chapitre 4 montre, en fait, comment Dieu nous voit, comment il nous compte. Le mot « compter » revient 11 fois dans ce chapitre. Ça nous montre ce pourquoi il nous tient. Ainsi, il n'est nullement question de comment les hommes nous voient, pas plus de comment nous nous voyons nous-mêmes, mais de comment Dieu nous voit, ce que Dieu dit de nous. Et ça, c'est de la plus haute importance. Car alors, nous devons apprendre, nous aussi, à nous compter comme Dieu nous compte, à nous voir comme Dieu nous voit. Et croyez-moi, ça n'est pas le plus simple. La récompense à la clé, quand nous y parviendrons, j'aurais pu dire si nous y parvenons, mais avec la foi, on peut dire quand nous y parviendrons, la récompense, c'est la paix. Une paix que rien ne peut altérer. Une assurance que rien ne peut ébranler. Je crois qu'on a besoin de ces choses-là. Alors nous aborderons ce chapitre en suivant la pensée de l'apôtre selon deux axes. Le premier, c'est foi et justice. Il nous expose en fait la justice de la foi sans les œuvres. Et dans ce passage, les 12 premiers versets, on trouve 6 fois le mot justice quand même. Et le deuxième axe, foi et promesse. L'héritage des promesses par la foi et pas par la loi. Versets 13 à 25, et là on trouve 5 fois le mot promesse ou promis. Donc vous voyez, j'ai pas fait le plan de moi-même, hein, il apparaît tout seul. Ceci afin de réaliser, et c'est le titre de ce message, que nous n'avons aucun mérite. Aucun mérite. Ce qui nous aidera à appréhender ce qu'est la grâce. Alors, premier axe, foi et justice. Rien n'est dû, tout est grâce. Presque, on pourrait s'arrêter là. Dieu offre sa grâce et nous la recevons par la foi. Dieu promet de nous donner sa justice et nous en prenons possession par la foi. Dieu nous tient pour juste à cause de Christ et pas à cause de nous. Pourquoi sommes-nous sauvés? Pas parce que nous le méritons. Pas parce que nous avons la foi premièrement. On a tout d'un coup tout compris, on a la foi et donc on est sauvé. Non, ce n'est pas ce que dit ce texte du tout. On est sauvé parce que cela plaît à Dieu. Que ça correspond à son dessein. Le fait de recevoir cette vérité finalement, en fait c'est la foi qui nous fait recevoir cette vérité. même si elle ne la comprend pas, pas toujours. Dieu nous impute la justice de Christ de son bon gré, pourrait-on dire. Et la foi ne fait que saisir cette bonté de Dieu qui nous est conférée gratuitement. Ce qui nous permet de rappeler que même la foi n'est pas méritoire, puisque la foi aussi procède de la grâce de Dieu, c'est lui qui la donne. La justice que nous recevons n'est pas nôtre, puisque nous sommes, nous dit ce texte, des impies, ou des méchants, ou des pécheurs, ça dépend des traductions. La justice que nous recevons, c'est celle de Christ, dont Dieu nous part, dont Dieu nous habille. Ainsi, à cause de sa miséricorde et par amour, Dieu nous pardonne. Il annule notre injustice et il nous justifie gratuitement en son Fils. Ce qu'on appelle la rémission des péchés, le fait d'être justifié, le fait que Dieu ne tienne plus compte de nos péchés, ça ne nous coûte rien. De notre côté, c'est gratuit, ce qui n'est pas le cas du côté de Dieu, puisque ça lui coûte son Fils. Que voudrions-nous racheter? Que voudrions-nous prouver? Que voudrions-nous mériter? De quoi pourrions-nous nous vanter? Ce matin, la parole de Dieu entend détruire notre orgueil et notre propre justice, parce que je crois que nous en avons besoin. Dieu ne justifie pas le juste, mais l'impie. Et donc, si nous persistons à nous présenter devant lui avec notre propre justice, même un tout petit peu, nous sommes perdus. Le seul que nous pouvons et devons présenter à Dieu, c'est le Christ. La justification par la foi est gratuite et elle est sans œuvre, parce qu'elle dépend de la rémission des péchés qui est effectuée à la croix par le seul qui n'ait jamais péché, le Christ. L'exemple de David montre que même en cheminant au service de Dieu, puisque quand même on peut attester que David était un grand serviteur de l'Éternel, l'homme est misérable quand même. Et il reste pécheur. Il n'y a donc pas d'autre moyen de salut que la grâce de Dieu qui ne tient pas compte de notre péché. Alors ceci étant dit, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler à notre salut, c'est-à-dire à notre perfectionnement à l'image de Christ, dans la sanctification. Mais ça veut dire qu'en aucun cas ce travail-là, même le plus réussi soit-il, n'est en mesure de nous apporter la moindre justification. Seule la grâce le fait. Je me répète parce qu'on sait le dire, mais qu'est-ce qu'on a du mal à l'avoir intégré dans notre cœur, ça, et à le vivre vraiment. Je vous fais grâce de ma toux. Pardon. Autrement dit, ma sanctification, mes bonnes œuvres, le fait d'être un bon chrétien n'est en aucun cas la cause de mon salut. C'est la conséquence de ma compréhension de l'amour de Dieu pour moi et la manifestation, pourrait-on dire, de mon amour pour lui. Mais cela ne me crée pas de passe-droit. Ça ne m'octroie pas non plus une meilleure place. On peut penser aux disciples qui avaient dit « Moi, je voudrais être à ta droite et moi à ta gauche. » C'est même la mère des disciples qui avait demandé. Ça pose d'autres questions, mais passons. Ma seule justice, c'est Christ. Mon passe, c'est Christ. C'est à cause de Christ que Dieu m'agrée. Hier, aujourd'hui, demain et n'importe quel autre jour de ma vie. Il n'y aura pas d'autre chose en plus. Je ne peux rien faire de plus pour que Dieu m'aime plus. Il faut donc distinguer entre pratiquer la justice et être rendu juste devant Dieu. Et on pourrait dire, c'est parce que je suis rendu juste devant Dieu que je suis capable de pratiquer la justice qu'il attend. En aucun cas, le cheminement inverse n'est recevable. Et dans ce texte, on a un assez grand passage qui nous parle de circoncis, pas circoncis. En fait, la circoncision, dans l'exemple d'Abraham, n'était pas non plus une œuvre qui justifie, mais elle était le signe et le témoignage de la grâce de Dieu. C'est ce que nous dit Paul. Son objectif était de sceller, de ratifier, d'attester la justice de la foi. Ainsi, sous la plume de Paul apparaît cette vérité concernant les sacrements, écrit le réformateur Jean Calvin. Ce sont des sceaux, des témoins, par lesquels les promesses de Dieu sont imprimées ou gravées en nos cœurs, et la certitude de la grâce confirmée. Les sacrements sont des instruments de la grâce de Dieu, pas pour la dispenser, évidemment, le sacrement ne sauve pas, mais pour la révéler, cette grâce. Ainsi, le sacrement ne justifie pas, il est en revanche signe de la promesse de Dieu. Et j'en arrive à mon deuxième point, foi et promesse. Au verset 14, l'apôtre enseigne que la foi est détruite si l'âme ne se repose pas avec certitude sur la bonté de Dieu. Il s'ensuit donc que la foi n'est pas une connaissance nue de Dieu ou de sa vérité, non pas même une simple persuasion que Dieu est et que sa parole est la vérité, mais que c'est une connaissance certaine de la miséricorde de Dieu, conçue par l'Évangile. Et cette connaissance certaine acquiert paix et repos à la conscience devant Dieu. C'est aussi une citation de Jean Calvin, je vous ai tout mis sur les papiers. C'est justement parce que tout dépend de Dieu, sans aucun mérite de notre part, que nous pouvons avoir l'assurance de notre salut, sans aucun lien de cause avec les œuvres. C'est parce que tout dépend de Dieu, je répète, hein. C'est parce que tout dépend de Dieu sans aucun mérite de notre part que nous pouvons avoir l'assurance de notre salut. Pourquoi es-tu sûr de ton salut ? Parce que ça dépend de Dieu, pas de moi. Si la loi produit la colère de Dieu, elle ne peut apporter la grâce. Or la foi a justement la grâce pour objet et non les œuvres. Elle a confiance en la pure bonté de Dieu. Et la promesse, du coup, est assurée quand elle est fondée uniquement sur cette grâce, sur cette faveur gratuite de Dieu. Ce Dieu qui, nous dit ce texte, appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et il nous faut nous arrêter sur cette réalité-là. Si on reprend l'exemple d'Abraham, Dieu fait naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel d'un couple très âgé et stérile. Le texte nous dit de corps qui sont morts par rapport à l'enfantement. Dieu peut donner la vie à ceux qui étaient morts. Il a ressuscité Jésus après 3 jours dans le séjour des morts. Alors évidemment, c'est le genre de choses qu'il est inutile d'essayer de prouver, hein, scientifiquement, de reproduire, etc. Ça fait partie de qui est Dieu. Ainsi, nous-mêmes, quand nous sommes appelés par le Seigneur, nous sortons de rien. Voilà encore un petit coup pour notre orgueil. Il ne nous choisit pas parce que nous sommes meilleurs ou plus obéissants. Parfois, on le croit, hein. Ah, il m'a choisi parce que là, j'ai été bon, hein. Ben non. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, qui donne la vie à ce qui est mort, qui justifie le pécheur, etc. Et comme lors de la création, finalement Dieu dit et la chose arrive. C'est sa puissance qui est mise en avant, pas notre capacité. Ainsi, la promesse de Dieu ne dépend pas de nous. J'ai envie de dire heureusement. La validité de sa parole ne dépend pas ni de notre foi, ni de notre âge, ni de notre niveau de compréhension. Elle ne dépend que de lui et de sa grâce. Ainsi, il faut que nous mourions à nous-mêmes afin d'être des outils utile entre les mains du Seigneur. Et si nous regardons aux circonstances, comme dans l'exemple d'Abraham, évidemment, aucune chance ni aucune espérance ne peuvent rivaliser. Comment peut-on croire que d'un corps presque mort pourrait surgir la vie? Mais si, comme lui, nous regardons à ce que Dieu promet, certain qu'il est tout-puissant et que rien ne lui est impossible, alors l'espérance devient certitude, pas juste peut-être que, éventuellement. C'est sûr, parce que Dieu l'a dit. C'est cette même foi que nous trouvons chez Marie, quand l'ange lui annonce qu'elle mettra au monde un fils. À vue humaine, hein, ça paraît quand même pas possible. On la trouve aussi chez Noé, à qui Dieu demande de construire une arche en plein désert, ou presque. Un peu aberrant, hein, à vue humaine. Ainsi, une foi forte n'est pas tellement celle qui accomplit des miracles, mais c'est la foi qui croit implicitement que Dieu fera ce qu'il a dit. Quand bien même toutes les apparences, la raison et l'expérience de la vie proclameraient le contraire. Le doute est l'inverse de la foi. Oui, les circonstances peuvent être à vue humaine totalement bloquées et la raison dira certainement de ne rien en attendre. Mais la foi, au contraire, dit « Dieu peut le faire s'il le veut ». Ou encore mieux, « Dieu l'a promis, donc il le fera ». Peu importe que ce soit invraisemblable, incroyable ou impossible, Dieu est au-dessus de cela. Et face à une promesse de Dieu que l'homme considère comme impossible, eh bien, il y a deux attitudes. La première, se moquer de ceux qui croient à des fables, tout naïfs qu'ils sont. La deuxième, être saisi d'admiration devant le Dieu de l'impossible et être poussé à l'humilité, nous qui ne sommes rien. Alors évidemment, la première attitude attire la condamnation, la seconde fait grandir en maturité spirituelle. Comme Abraham, si on regarde autour de nous, tout vient contredire les promesses de Dieu. Je crois qu'il faut qu'on en soit conscient de ça. Dieu promet la vie éternelle et nous sommes mortels et vieillissants. Il promet la justice et nous ne voyons qu'injustice et corruption. Si nous regardons autour de nous, hein. Si vous voyez autre chose, vous me dites que je regarde au même endroit que vous. Il dit que nous sommes justifiés et saints et nous sommes encore souvent empêtrés dans nos péchés, dans nos lâchetés. Il témoigne de sa bonté et de sa douceur et nous avons encore parfois peur de sa colère. Que faut-il donc faire? Eh bien, je crois qu'il faut que nous fermions les yeux sur nous et sur tout ce qui est en nous, afin que rien ne nous empêche de croire que Dieu dit la vérité, qu'il est la vérité. C'est ainsi que notre foi rend gloire à Dieu. Alors que par notre manque de confiance en lui, nous limitons son action et nous étouffons ses promesses. Voilà la réalité. Seigneur, viens au secours de notre manque de foi, disaient les disciples. Ce doit être aussi notre cri, particulièrement quand les circonstances nous entraînent à douter de sa puissance et de son amour. La foi ne doit pas regarder à notre faiblesse ni à notre misère, mais être tout entière tournée vers la justice et la puissance de Dieu, sachant que sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Et donc, ce qu'il promet, il l'accomplit. Ainsi, si la foi se fonde sur la parole de Dieu, elle doit s'en nourrir continuellement. Alors il nous faut, mes amis, cesser de compter sur nous-mêmes, particulièrement en ce qui concerne notre salut et notre marche chrétienne. Arrêtons de penser qu'on va y arriver. Par nous-mêmes, j'entends. Nous sommes appelés à lever les yeux. Parce que si nous regardons à nous-mêmes ou au monde qui nous entoure, nous allons sombrer. Exactement comme le fait Pierre quand il va pour marcher sur les flots à la rencontre de Jésus, qu'il cesse de regarder Jésus, qu'il regarde la mer et il se noie. Enfin presque, parce que Jésus le rattrape. Dieu est un abri solide et sûr, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous justifie. Nous devons attacher nos cœurs à ses vérités et nos yeux à celui qui nous les confère. Il est celui qui ne change pas et c'est la raison pour laquelle notre assurance est parfaite. Il ne va pas changer d'avis. Il est le Tout-Puissant et ce qu'il promet, il l'accomplira. Ainsi, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et avant de terminer, je voudrais quand même que nous remarquions la différence entre la foi d'Abraham et la nôtre. Abraham croyait que Dieu pouvait accomplir ce qu'il avait promis. Nous, nous sommes appelés à croire ce qu'il a déjà accompli. C'est quand même plus facile, hein ? Tel est l'évangile de la grâce de Dieu. Ça n'est pas une promesse ? Pas seulement une promesse, mais c'est aussi un accomplissement pour nous. Nous pouvons alors d'autant plus nous fier aux promesses encore à venir, comme l'achèvement de notre sanctification, comme notre perfectionnement à l'image de Christ, ou encore notre propre résurrection et la vie éternelle en sa présence. Cette foi repose sur la puissance de Dieu qui a accompli pour nous une telle délivrance et qui nous a purifiés. Christ a été livré pour nos fautes, et ressuscité pour notre justification. Il importe de rendre cette affirmation personnelle. Pouvons-nous dire « C'est pour mes péchés que Jésus a été livré. C'est pour ma justification que Dieu l'a ressuscité des morts. » Je vous invite à faire cet exercice dans la semaine, à un moment où vous êtes tout seul. Je l'ai fait hier soir et ça a complètement tout cassé à l'intérieur de moi. Oui, c'est pour moi. Voilà la foi qui sauve, celle qui s'appuie sur l'incommensurable grâce de Dieu, celle qui nous permet d'être absolument certains de notre salut, parce qu'il ne dépend pas de nous. Alors nous sommes en paix. Et je voudrais terminer cette prédication en vous lisant le verset qui a été celui du cadet hier. Sarah en a parlé, hein, le verset dans Proverbe 3, justement, on a lu la suite tout à l'heure, mais c'est un verset avant, le verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Et les enfants ont eu droit à une petite expérience, alors je vais vous la refaire. J'espère que ça va marcher aussi bien que ce que ça a marché hier. Donc, Sarah, tu me corriges si je me trompe, hein, parce que c'était ton expérience. L'orange représente nous et la peau représente notre confiance en Dieu. C'est ça, Dieu qui nous entoure. Donc ça, c'est les épreuves. Ouais. Donc, comme nous avons dit aux enfants, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y a pas d'épreuves. La tempête arrive. Il y en a un autre. L'épisode, c'est Venol. La tempête arrive encore et veut nous noyer, veut nous emporter. Est-ce que vous remarquez quelque chose ? Peut-être il faut que je rajoute un peu d'eau encore ? Pas trop lourd ? Voilà, là vous voyez mieux, je pense que ça flotte. Voilà, ça flotte. Si quelqu'un a le courage d'éplucher l'orange maintenant. Ouais. Donc si on enlève Dieu autour de nous, si on enlève notre confiance en Dieu, le fait de savoir que Dieu nous protège. On salit tout là. Mais je trouve que des fois on fait ça avec les enfants et c'est dommage qu'on ne le fasse pas avec les adultes parce que ça parle quand même. Hein. Alors hier j'ai piqué une orange au cadet, j'ai demandé quand même pour pouvoir vous refaire cette expérience.
Ça marche avec une mandarine, c'est plus rapide.
Voilà, donc si on enlève notre confiance en Dieu, on enlève Dieu de notre vie, et ben voilà, ça coule. Bon, c'est logique, mais le but n'est pas que ce soit rationnel, évidemment. Hein. Le but est d'exprimer que notre... Merci Sarah. Le but est en fait tout simplement de comprendre que notre foi nous empêche de couler. Je vous invite à prier. À prier cette simple phrase que vous pourrez reprendre à votre compte chez vous. Seigneur, je n'ai aucun mérite, mais ta grâce m'a sauvée. Apprends-moi à ne me confier qu'en toi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu. Amen.